autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour faire entendre les nouvelles voix de la recherche au Sud, à commencer par celle des femmes, doctorantes et post-doctorantes, lauréates de la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en Afrique subsaharienne. 20 bourses de recherche décernées la semaine dernière à Dakar, à suivre avec d'autres voix de chercheuses et de chercheurs, réunies au colloque Sciences ouvertes au Sud, organisé à Dakar également en octobre dernier, par l'IRD, le CIRAD et l'Université chère Anta Diop, pour un partage plus équitable des données, des connaissances et des recherches sur le continent. Regards croisés et retours d'expérience recueillis par notre reporter Charlie Dupiot et par notre correspondante à Dakar, Charlotte Hydrac, autour de la question « Comment ouvrir la science au Sud et aux femmes ?» Bienvenue.
C'est vrai, il faut le reconnaître, il n'y a pas beaucoup de femmes scientifiques chez nous. Mais moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par mes parents qui étaient un peu dans la recherche et par aussi, j'ai pris exemple sur d'autres femmes qui étaient chercheurs. Je me suis dit, certes, elles n'étaient pas nombreuses, mais si elles sont capables, elles sont arrivées à ce niveau, c'est que c'est possible. Je ne suis pas en reste et que je peux donner le meilleur de moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Également, j'ai rencontré quelques rares femmes qui étaient des chimistes, des physiciennes. J'ai dit, waouh, elles ont des tempéraments, moi aussi je veux faire comme. Donc ça m'a encouragée à aller vers la recherche.
Elles s'appellent Cécile, Fatoumata, Eninsoa ou Stéphanie, sont originaires du Burkina, de Côte d'Ivoire, du Sénégal ou de Madagascar ou encore d'ailleurs. Ces jeunes talents de la recherche doctorante ou post-doctorante en microbiologie, en chimie, en mathématiques, en sciences de la santé ou en sciences environnementales viennent de décrocher à Dakar la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en Afrique subsaharienne. Nous vous proposons au micro de Charlotte Hydrac, notre correspondante à Dakar, de partager leurs réflexions et leurs interrogations pour une science ouverte et partagée. Une science ouverte au Sud, c'était aussi le thème d'un grand colloque, organisé cette fois en octobre dernier à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar par l'IRD et le CIRAD, et que vous avez suivi pour nous, Charlie Dupiot. Bonjour Charlie.
Bonjour Caroline.
On parle beaucoup en ce moment de science ouverte, d'open science. De nombreux scientifiques de tous horizons, de toutes disciplines militent dans le monde entier pour une diffusion plus large des résultats de la recherche, pour un partage des données et des connaissances plus équitable.
Oui, mais les obstacles sont nombreux pour une science ouverte et équitablement partagée du nord au sud de la planète, on va l'entendre.
Oui, vous allez nous faire partager, Charlie, les interrogations et les espoirs des plus grandes voix de la recherche au sud qui se sont confiées à vous avec une grande sincérité, une vraie franchise, sans aucun tabou sur les défis de cette science ouverte, vaste chantier que l'on ouvre justement du côté des femmes, des jeunes chercheuses, avec ce reportage à voix multiple réalisé à Dakar par notre correspondante Charlotte Hydrac, avec quelques-unes des 20 lauréates de la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en Afrique subsaharienne. Par ordre d'apparition, Cécile Harmony Otoïdogiba, Fatoumata Ba, Stéphanie Karekonan et Enitsoa Onivola Minaorivelo.
Je m'appelle Dr Cécile Harmony Otoïdogiba. Je suis docteur en biochimie, microbiologiste. Et je suis docteur depuis 2017. Je viens du Burkina Faso où j'ai fait tout mon cursus scolaire. Et aujourd'hui encore, je suis là-bas. Je mène mes recherches, mes activités de terrain.
Je suis le docteur Fatoumata Ba. Je suis enseignante-chercheur à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis née et j'ai grandi à Dakar. J'ai fait toutes mes études au Sénégal, à la faculté de médecine et de pharmacie, où j'ai eu successivement le doctorat d'état en médecine et la maîtrise en sciences biologiques et médicales, option physiologie.
Je suis Konan Moba Stéphanie Karen, doctorante en géographie à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Par ailleurs, ingénieur génie logiciel et réseau télécommunications. J'écris une thèse sur la malnutrition infantile, dont l'objectif est principalement de montrer comment les outils géographiques peuvent-ils aider à mieux lutter contre ce fléau qui est un problème de santé dans mon pays.
Je m'appelle Insou Nfoulami Noirfil et je viens de Madagascar. J'ai fait mes études en mathématiques du premier cycle à Madagascar, à l'Université d'Antananarivo. Alors j'ai fait mon master et mon doctorat à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud et je suis actuellement chercheuse postdoctorante aussi à l'université de Stellenbosch.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur quoi vous travaillez ?
Alors mon domaine de recherche, c'est les mathématiques appliquées à l'écologie. Et donc c'est sur les modélisations mathématiques. Et mon sujet spécifique, c'est l'étude de l'effet du changement climatique sur les réseaux d'interaction écologique. Un exemple, c'est la pollinisation. Lorsque les abeilles transportent le pollen vers les plantes et pour la reproduction de la plante, alors ce type de réseau d'interaction est vraiment important pour l'écosystème. Et parce qu'un tiers de la production agricole mondiale dépend de la pollinisation par les abeilles, au fait, par les insectes.
En fait, je travaille sur la toxicité ferro-urée. Nous avons mis en place des techniques. Nous avons essayé, sur la base des recherches qui ont déjà été entreprises, nous avons essayé de mettre en place et d'additionner des techniques de drainage de subsurface, des techniques de fertilisation et jouer un peu sur les variétés de riz afin d'avoir des résultats assez probants sur le terrain. C'est ce que nous voulons vulgariser, avec la collaboration des paysans, bien sûr.
Est-ce que vous ressentez aujourd'hui un plafond de verre pour les femmes scientifiques sur le continent ?
Un plafond de verre qui, heureusement, tend à se dématérialiser avec tous les efforts qui sont fournis. Pour ce qui concerne mon pays, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que assez d'efforts quand même sont entrepris. Mais pour les sciences formelles telles que les mathématiques ou encore la biologie, elles ne sont pas assez nombreuses.
Qu'est-ce que ça vous apporte cette semaine entre chercheuses, entre scientifiques de tout le continent ?
Bon, c'est des moments de partage avec des scientifiques d'autres horizons, surtout les anglophones, échange.
Je suis assez honorée parce que je rencontre ici des profils extraordinaire. Et être là, c'est un véritable honneur, c'est une véritable chance et ça tend à montrer que ce sur quoi je travaille mérite d'être connu également. Donc c'est vraiment un honneur et ensuite, c'est tout à fait intéressant de pouvoir échanger avec d'autres femmes, connaître leur réalité, ce qu'elles vivent à leur niveau, au niveau national, et également parler de ce que je vis en tant que scientifique, en tant que chercheur dans mon pays. Donc c'est un partage d'expériences très enrichissant.
On apprend l'une de l'autre. Et en plus aussi, nous avons une formation en cours, des formations qui sont assez importantes pour notre carrière en tant que scientifique, notamment le management, le leadership, la gestion, la négociation, comme nous serons amenés plus tard à gérer des équipes, à travailler avec des étudiants, c'est des corps qu'il faut avoir à son arc. Voilà.
C'est une occasion de créer des réseaux, une opportunité de partager nos expériences et je pense que ça nous réconforte dans notre position parce que moi j'ai toujours cru que les femmes pouvaient exceller en sciences. Et quand je rencontre des femmes qui viennent d'ailleurs et qui excellent aussi en sciences, je me dis, je n'ai pas eu tort.
Comment ouvrir la science au Sud et aux femmes, selon vous ?
Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de mesures d'accompagnement. Parce que si on sait que être homme et être femme, ce n'est pas du tout la même chose pour des raisons culturelles. Nous pouvons nous départir de nos considérations culturelles. Je pense que c'est possible, hein, c'est juste un combat à mener parce que la culture, elle est faite par les hommes avec grand H. Mais l'autre aspect, c'est d'inciter les autorités, que ce soit les autorités universitaires ou les autorités gouvernementales, à promouvoir les carrières féminines. Et je pense que ça pourrait être encourageant pour les femmes pour qu'elles puissent s'intéresser à la science. Parce qu'un constat est que les femmes entament très tardivement leur carrière en général. Parce que je vous ai dit que la carrière féminine est toujours jalonnée de moments de rupture. Et ces ruptures, ce sont des années qu'on perd également. Mais il faut aussi faire, parce qu'on ne peut pas aussi attendre de finir, puisque la carrière scientifique, elle ne se termine jamais en réalité, alors qu'on a aussi une autre carrière familiale à mener. Donc je pense qu'il faudrait une politique d'accompagnement de nos autorités par rapport à ça.
Qu'est-ce que va vous permettre cette bourse ?
Alors, cette bourse va me permettre de finaliser des travaux de recherche que j'avais déjà entamés dans le domaine du sommeil.
Alors, la bourse, premièrement, parce que c'est une bourse, elle va beaucoup m'aider pour la recherche et surtout pour ce projet-là qui me tient à cœur parce qu'il est lié au changement climatique. Mais puis, ça pourrait aussi être un tremplin dans ma carrière, qui sait, pour plus de visibilité dans mes recherches et dans ma carrière en général.
La bourse accordée va me permettre d'abord, en premier lieu, je compte participer à des conférences pour vulgariser ce que nous avons déjà trouvé, publier des résultats. Et aussi, j'ai en vue des collaborations avec d'autres laboratoires qui peuvent nous aider. Donc, des voyages d'études et des travaux également sur le terrain. Ça va me permettre de pouvoir financer quelques travaux sur le terrain. En tant que scientifique, je vois mon avenir dans mon pays parce que je sens que j'ai beaucoup de choses à apporter. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la recherche. Et quand nous rentrons dans un amphithéâtre et que les femmes nous voient tout jeunes, voilà, avec un doctorat, tout le monde, il y a de l'engouement. On vient nous voir, oh, madame, nous voulons être comme vous. Je pense que nous avons intérêt à rester chez nous et à encourager les uns et les autres à montrer l'exemple. C'est surtout ça qui me motive. Je ne me vois nulle part si ce n'est au Burkina, pour le moment. Pour le moment, je crois bien.
Décidément très inspirée, très inspirante, coup de chapeau, hein, vraiment, aux 20 lauréats de la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en Afrique subsaharienne. On n'a pas pu toutes les entendre, mais elles sont toutes aussi inspirantes et inspirées les unes que les autres. À retrouver bien sûr sur notre page et à suivre évidemment sur nos ondes. Reportage signé de notre correspondante à Dakar, Charlotte Itrac. Cora de Balaké, Sissoko sur RFI, autour de la question comment ouvrir les sciences au Sud, excusez-moi pour le bruit, surtout sur le son de la Cora, nous continuons de nous interroger sur les enjeux et les défis de la science ouverte, avec vous Charlie Dupio, autour du premier colloque international organisé sur le sujet à Dakar, vous y étiez en octobre dernier, organisé par l'IRD, le CIRAD et l'université Cherhanta Diop. Comment partager équitablement du Nord au Sud et du Sud au Nord, et même entre les Suds, les données, recherches et connaissances, quels sont les obstacles, les défis, les enjeux et les espoirs d'une science véritablement ouverte à toutes et à tous. Première piste de réflexion partagée grâce à vous, Charlie Dupio, depuis Dakar.
Bonjour, vous êtes sur RFI. On parle de science ouverte aujourd'hui.
Ben, c'est la science tout court, parce qu'une science qui est enfermée et qui est cloisonnée, ça ne risque pas d'être de la bonne science.
En recherche, maintenant, le partage des données est devenu quelque chose, c'est le Graal. Il faut montrer ces données, et ça, c'est très bien, parce que les données appartiennent à tous, à toute l'humanité.
Elle est vraiment ouverte, la science. Cela a commencé avec l'avènement de l'Internet.
Il y a encore du travail à faire. Actuellement, il appartient uniquement aux chercheurs de partager ou non les données.
Et dans les discussions informelles, ah ben tiens, moi je travaille sur telle donnée, j'ai fait telle étude, et aucune publication ne sort. Mais il y a beaucoup de données scientifiques produites en Afrique qui dorment justement dans les tiroirs, beaucoup. Et il faut que cela change, que tous les chercheurs nord comme sud comprennent qu'on va avancer encore plus vite en ouvrant les portes de ces laboratoires et de sa connaissance.
Quand on publie même pas un cinquième des données qu'on a générées. Tout le reste est dans nos tiroirs. C'est parce qu'il n'y a pas, en absence de cadre, tout chercheur qui a des données, c'est dans son ordinateur. Et on fait face à un problème, un chercheur va à la retraite, va avec les données qu'il a.
Je veux dire, l'intelligence ou l'imagination, la créativité n'est pas l'apanage du Nord. On va voir que l'Afrique possède beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations lorsque vraiment tous ces tiroirs vont être ouverts, je pense, vraiment.
Nous aussi, comme Francine Toumi, éminente spécialiste du paludisme, présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale, qui milite depuis longtemps pour une science ouverte et partagée. C'est un formidable défi, un enjeu essentiel, débattu pour la première fois, hein, il faut le dire, à Dakar, Charlie Dupiau, lors de ce premier colloque international Science ouverte au Sud, organisé par l'IRD, le CIRAD et l'Université Cheikh Anta Diop. Vous y avez rencontré sur place, sur le campus, les nombreux et éminents scientifiques du continent qui cherchent à travailler ensemble, à créer des réseaux pérennes, à développer une plus équitable collaboration nord-sud et sud-sud, malgré les obstacles et les difficultés. Alors autant de parcours, autant de tentatives, autant de voies que nous allons essayer de prendre le temps d'écouter ensemble aujourd'hui pour dessiner en creux ce que signifie cette idée de science ouverte, ce qu'elle inspire à ces chercheuses et chercheurs du Sud, les principaux concernés, leur réticence, souvent justifiée, mais aussi leur espoir d'une recherche plus libre et véritablement partagée, le tout sans langue de bois. Les paroles, Charlie, sont aussi libres que les esprits, et ça c'est porteur hein, tout de même.
Oui, et d'abord je vous propose d'écouter la voix d'une chercheuse à nouveau. Aïssa Diarra est anthropologue de la santé au Niger. Elle travaille depuis 18 ans au sein du LASDEL, le laboratoire d'études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local. On y étudie les politiques de santé, l'accès des populations aux services de santé et la santé de la reproduction. Aïssa Diarra est basée à Niamey, mais elle part très souvent sur le terrain.
En fait, il n'y a aucun problème de publier des articles. C'est même ce que nous recherchons dans le domaine de la recherche. Le gros problème, c'est le partage des données primaires. Jusqu'où on peut aller? Est-ce que même tout ce qui était les notes de terrain qui sont considérées comme la cuisine interne du chercheur peuvent être partagées? Ce qui est clair dans mon laboratoire, ce sont ces données primaires-là qu'on ne peut pas partager en aucune manière. Parce que nous avons été victimes de plagiat, même avec nos rapports, les rapports que nous publions sur notre site. Ce sont des rapports qui ont été plagiés sans qu'on nous cite en tant qu'auteur de ces données.
Mais qui fait ça?
On a vu que c'est des chercheurs du Nord, mais aussi de nos collègues chercheurs du Sud aussi qui font de telles pratiques. Et d'autant plus que, on le sait, dans ce contexte d'insécurité où, par exemple, au Niger, on le sait, on prend de gros risques pour produire des données primaires.
Concrètement, vous, dans votre travail, c'est quoi les données que vous allez chercher sur le terrain?
Et ce sont les transcriptions des entretiens, ce sont les notes de terrain. Dans le cadre de la planification familiale, par exemple, si je travaille sur un tel sujet, je peux aller dans la région de Diffa.
À la frontière avec le Tchad?
Oui, c'est ça. Où il y a Boko Haram qui évolue près du lac Tchad. Et je vais avoir des entretiens avec des femmes, mais aussi avec des hommes, sur l'utilisation des méthodes contraceptives modernes.
Donc c'est quoi? C'est la pilule?
Oui, c'est la pilule. Ça peut être les injections, le stérilet. L'utilisation de ces méthodes contraceptives a reculé au Niger de 12%. Le taux est revenu à 11% entre 2012 et 2017. Il y a une résistance. Et donc, ce sont des questions sensibles. On est dans la théorie du complot. C'est une manière pour l'Occident de nous empêcher d'avoir des enfants. Il y a la religion qui compte comme facteur important dans ces résistances à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Je retourne sur le terrain dans des régions assez éloignées de la capitale de Niamey, à 1000 km de Niamey, par exemple. Donc, dans la région de Diffa.
Vous, concrètement, en tant que chercheuse, quand vous allez là-bas, à quel risque vous faites face?
Il faut dire que de plus en plus, je fais des cauchemars parfois. Ça, c'est vrai, je fais des cauchemars parfois. Je me dis, ben voilà, en plein entretien avec une femme ou des enfants, ben voilà, des djihadistes qui arrivent et qui canardent, qui égorge ou qui tue tout le monde. Moi, je fais des cauchemars comme ça. Et l'une des manières surtout de se faire remarquer, c'est de partir avec un collègue du Nord. J'y vais deux ou trois fois dans l'année. Par exemple, dans quelques mois, je retourne sur le terrain et je devrais y aller avec une collègue du Nord et j'appréhende beaucoup. C'est des risques. Comme on le dit entre nous, chercheurs du Sud, eux, on les enlève, nous, on nous tue tout de suite parce qu'on n'a aucune valeur à leurs yeux.
Et donc, si je collecte, par exemple, des données primaires comme ça, donc des transcriptions d'entretien avec une femme au fin fond de DIFA, en tant que chercheur, je préférerais les valoriser et faire une publication scientifique plutôt que de mettre ça à la disposition de tout le monde. Et je sais que moi, voilà, je n'aurais pas mon nom qui serait cité. Ça veut dire que je ne suis pas, je disparais, je deviens anonyme. Malgré tous les efforts que je fais pour accéder à ces données, il faut avoir une bonne visibilité dans notre domaine. Ça aussi, c'est clair, c'est une réalité de la recherche. Mais il faudrait que les règles soient bien écrites de la science ouverte par les chercheurs du Sud eux-mêmes et non pas du point de vue des chercheurs du Nord. C'est ma crainte. C'est assez profond, hein. C'est ce sentiment général du chercheur du Sud africain qui ne veut pas être celui qui va... C'est comme les matières premières, quoi. Puis les matières premières, on les amène, on transforme, puis on les ramène chez nous. Nous ne sommes pas là pour produire que des données primaires. Nous voulons être aussi là en tant que chercheurs dans la valorisation, donc dans la production des articles. On est toujours dans ce passé colonial qui fait que, voilà, parfois il y a des résistances systématiques. C'est une question de confiance et, pour le dire sincèrement, on n'a pas vraiment confiance, en tout cas sur ce plan.
Voilà qui vient d'être très justement dit par Aïssa Diarra, formidable anthropologue de la santé au Niger, qui force le respect. On comprend parfaitement, Charlie, ses réticences à partager des données aussi difficilement et courageusement collectées. Il nous faut absolument l'entendre, l'écouter, écouter ces chercheurs et chercheuses du Sud pour que la science ouverte ne s'ouvre pas que dans un seul sens, c'est-à-dire le nôtre.
Oui, elle exprime des réserves sur cette idée de science ouverte, notamment sur les données primaires. Elle se dit néanmoins prête à faire savoir sur quel sujet de recherche elle travaille, quel type de données elle collecte pour éventuellement partager ces données primaires avec d'autres chercheurs qui en auraient aussi besoin pour leur recherche, mais sur demande. Voilà, là c'est toute la différence. Alors la science ouverte, ça ne veut pas seulement dire ouvrir ces données primaires, c'est aussi l'idée de publication, de publier donc des données qu'on va dire transformées. Aïssa Diarra par exemple a publié 4 fois cette année sur le site The Conversation, dans le journal Le Monde Diplomatique et puis dans d'autres revues. Mais il y a des années où elle n'a pas le temps d'écrire. Elle le reconnaît, publier, c'est aussi un manque à gagner pour elle, pour son laboratoire. Et de nombreux chercheurs trouvent qu'il est difficile de publier dans des revues scientifiques internationales, puisque pour publier, il faut souvent payer la revue.
Oui, double peine, hein, véritablement, des chercheurs et chercheuses du Sud. Alors c'est paradoxalement pour sortir en fait de ce cercle vicieux qu'on parle de plus en plus de science ouverte, que ce soit au Sud ou au Nord, Charlie.
Oui, alors en France, un plan national pour la science ouverte a été lancé en juillet 2018 par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, avec ce mot d'ordre: les résultats de la recherche scientifique doivent être ouverts à tous, sans entrave, sans délai et sans paiement. Ce plan rend obligatoire l'accès ouvert pour les publications qui sont issues de recherches financées sur projet. Alors, le CNRS a annoncé aussi pour sa part une feuille de route sur la science ouverte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France et dans d'autres pays du Nord, avant chaque projet de recherche, le chercheur doit rédiger un plan de gestion des données. Donc on écrit où ces données vont être stockées, comment elles doivent être diffusées, à qui elles appartiennent. C'est obligatoire pour tout projet financé par l'Agence nationale de recherche en France ou par l'Union européenne. Mais dans les pays du Sud, faute de cadrage, c'est beaucoup moins évident.
Et c'est pas le moindre des défis à relever au Sud justement, où là on est encore dans les paradoxes, comme toujours avec la science ouverte. Certains laboratoires au Sud justement ont été cités lors de ce colloque notamment comme des modèles précisément de science ouverte.
Oui, et c'est le cas au Sénégal du Centre d'études régionales pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse, centre qui est au sein de l'Institut sénégalais de recherches agricoles. Djido Kane dirige ce centre basé à Thiès, à 70 km de Dakar, centre qui a été labellisé Centre d'excellence régionale de la CDAO. Il compte 19 chercheurs et cadres supérieurs techniques. Il a reçu un mandat pour générer des innovations et des technologies sur 6 cultures différentes, dont le mil, graine du présent sur le continent, et qui sait, graine du futur.
Le mil, c'est l'aliment de base premier, le sorgho, le foignon dans certains pays, qui sont des céréales africaines locales, mais également l'arachide, le niébé et le sésame. Donc tout ce qui concerne ces spéculations-là, nous avons le mandat de faire de la recherche pour générer donc des innovations, des technologies adaptées, non pas seulement au Sénégal, mais également aux autres pays de la sous-région.
Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre sur ces céréales ?
On cherche à comprendre comment ces céréales peuvent mieux performer en conditions de sécheresse. Mais en conditions de sécheresse, ce n'est pas uniquement le déficit hydrique. Il y a également la hausse des températures, il y a également la baisse de la fertilité des sols. Ce qu'on fait dans ce centre-là, c'est vraiment comment mieux adapter les cultures. Et pour cela, nous avons différents axes de recherche. Qu'est-ce qui définit au niveau physiologique de la plante ? Comment la plante s'adapte ? Est-ce qu'une plante adaptée à la sécheresse produit des graines de qualité ? Donc ça, ce sont des types de recherches que nous faisons.
Et par rapport à la sécheresse, qui effectivement est une vraie problématique dans la sous-région, qu'est-ce qui est le plus envisagé comme culture ?
Vous me posez la question pour me faire plaisir, parce que moi je travaille sur le mil. Le mil est une culture très bien adaptée à ces conditions-là. Si je prends les cultures comme par exemple le blé, le riz, le maïs, qu'on appelle les grandes cultures, ils peuvent tolérer des températures de 28, 30, 33, 37 degrés. Le mil peut tolérer des températures jusqu'à 42 degrés. Le mil, tu sèmes à sec, tu n'as pas besoin de pluie, tu sèmes à sec, tu vas avoir quelque chose dès qu'il va pleuvoir. Et oui, on fait de la recherche sur ces cultures pour essayer d'augmenter les rendements.
Alors comment ?
Ben, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'actuellement, sous ces conditions-là, les rendements du mil sont très faibles. Une variété de mil a un potentiel de production de 2, même à 3 tonnes à l'hectare. Le paysan, il arrive à avoir 500, 600 kg. C'est très peu. Pourquoi cela ? Est-ce que c'est au niveau des pratiques ? Est-ce que c'est au niveau de la variété ? C'est ça qu'on essaie de comprendre. Donc, si on réussit à avoir des solutions techniques à proposer aux paysans, vous pouvez faire la culture du mil. En ajoutant du compost, vous doublez la production, eh bien, ça va contribuer. Imaginez, actuellement, le mil, c'est la première céréale cultivée en termes de superficie, ici au Sénégal. Mais sauf que les rendements sont très faibles. Imaginez si on double ou on triple la production du mil. Mais on va contribuer forcément à une sécurité alimentaire d'une façon ou d'une autre.
Alors votre Institut sénégalais de recherche agricole, pour lequel vous travaillez, est vu comme un modèle de science ouverte.
Oui.
Comment ça se fait ?
Ben, parce qu'on est au cœur du développement. C'est une institution de recherche créée depuis 1974. Et donc ce qu'on fait, c'est vraiment pour les populations. Mais également, c'est co-exécuté en partenariat avec des institutions de recherche comme l'IRD, comme le CIRAD, comme d'autres. Et même des ONG et avec des organisations paysannes. Il y a les notes politiques que nous faisons, que nous donnons aux décideurs pour appuyer leurs décisions. Nous faisons ça également. Des fiches techniques pour accompagner les paysans pour faire la culture.
Par exemple, quel type de fiches techniques vous avez pu faire à destination des agriculteurs ?
C'est des conseils sur la préparation du sol, le choix de la semence. La science qui est faite au mil doit être ouverte pour que les gens puissent ne plus considérer le mil comme une céréale de pauvres. Parce que c'est des petites surfaces, parce que ça concerne que les populations pauvres d'Afrique et d'Asie. Et donc on les appelle orphelines parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'informations associées à la culture.
Alors que pour vous, l'enjeu par la recherche et par la science ouverte, ça serait de la revaloriser, cette céréale-là ?
Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas une grande culture chez vous qu'elle n'est pas une grande culture ailleurs. Alors que le mil contribue à la sécurité alimentaire de millions de personnes, 100 millions de personnes à travers le monde. Je pense que ces informations doivent être publiques. C'est en ça que la science peut être ouverte pour moi. C'est avec l'exemple du mil.
Merci Angie Jokan du Centre d'excellence sur les céréales sèches. Le mil comme graine exemplaire de cette recherche ouverte au Sud, bénéfique à tous et à tous les Suds. Charlie Dupio, comment défendre finalement plus largement et en réseau ces modèles d'une science ouverte au Sud ? Comment cette recherche équitable, partagée, peut-elle aussi valoriser le patrimoine existant scientifique africain ?
Ces questions ont été posées à Dakar par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui est à l'origine de ce colloque Science ouverte au Sud. Un colloque qui a réuni près de 150 participants de 16 pays différents, dont 10 d'Afrique subsaharienne, avec l'envie de s'accorder sur des principes à l'occasion de ces rencontres entre chercheurs du Sud et du Nord. Alors l'IRD a aussi lancé une plateforme de données en ligne dans cette idée toujours de science ouverte, Dataverse. J'ai rencontré Jean-Christophe Desconnet, directeur de la mission Infrastructure et données numériques à l'IRD.
La science ouverte, c'est donc quelque chose qui est, je dirais, la notion est très récente, malgré qu'on peut considérer qu'on fait de la science ouverte depuis un certain nombre d'années. On parle d'archives ouvertes, je pense également depuis 20, 30 ans ou 40 ans. Mais je crois que ce qui se passe aujourd'hui et qui est effectivement intéressant et extrêmement important, c'est que les politiques ont pris cet enjeu. Ils l'ont inscrit dans leur feuille de route nationale ou internationale. Mais effectivement, derrière la science ouverte, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le besoin et l'enjeu de faire de notre science aujourd'hui, dans l'ère du numérique, une science beaucoup plus accessible, cumulative, qui permet de retrouver, de s'accaparer et de réutiliser les travaux des autres sur le temps long. Une science plus transparente, c'est-à-dire qui va permettre de connaître dans le détail les travaux d'une recherche en particulier ou d'une autre. Si on parle des pratiques actuelles, bon, c'est pas tout le monde bien sûr, mais beaucoup de chercheurs considèrent que leur science leur appartient. Et du coup, ça donne une certaine difficulté à transmettre ces productions scientifiques, à les transmettre au-delà d'une équipe, au-delà d'un chercheur.
Pourquoi c'est important de parler de la science ouverte au Sud ?
Parce que le Sud a encore beaucoup plus de mal que nous à valoriser ses productions, alors qu'effectivement, il y a des productions de qualité qui sont produites autant que dans nos pays, qui sont produites dans ces pays du Sud.
Et pourquoi avoir organisé ce colloque ici, à Dakar ?
C'est Dakar, ça aurait pu être Ouaga, ça aurait pu être Niamey, ça aurait pu être Bamako. Notre idée, effectivement, était de réunir une communauté francophone avant tout. Il se passe pas mal de choses en Afrique sur la science ouverte, mais plutôt dans la communauté anglophone. Il y a une initiative qui est partie de l'Afrique du Sud qui s'appelle African Open Science Platform. Un des résultats, un des éléments de ce type d'initiative, c'est mettre en place des plateformes qui vont permettre de diffuser des résultats de la recherche.
De toutes les disciplines, d'acquérir et de démontrer de solides compétences transversales.
En vulgarisant et en communiquant, contribuer au développement des pays participants et plus globalement
à la valorisation de la communauté scientifique. Susciter l'émergence de nouvelles générations de chercheurs scientifiques francophones.
Et leur offrir l'occasion de rencontrer des chercheurs issus d'autres pays et d'autres disciplines.
Intégration, promotion, ouverture, capitalisation.
Waouh ! Alors certains chercheurs voient une forme de néocolonialisme dans cette idée de la science ouverte, en ayant peur de se faire voler leurs données.
Bien sûr, ils ont bien raison. Et là-dedans, nous, en tant qu'IRD, on promeut la relocalisation des données au Sud. Aujourd'hui, effectivement, il faut se poser la question, enfin, on se la pose d'ailleurs ici, c'est de quelle manière on met en place avec nos partenaires africains les conditions et les moyens pour permettre que les données qui sont observées dans les territoires africains puissent être gérés, partagés au sein d'infrastructures qui sont situées en Afrique.
Quels sont pour vous les principaux obstacles aujourd'hui à la science ouverte ici sur le continent africain ?
La science ouverte est amenée par la transition numérique. La transition numérique, notamment dans le Sud, se fait beaucoup plus doucement que peut se faire chez nous. Et donc, du coup, le premier frein à une science ouverte en Afrique, c'est de disposer d'infrastructures à la fois de réseaux, donc de la connectivité, également d'infrastructures de stockage et de calcul.
Et publier ces données, les trier, ça prend du temps. C'est ce que certains chercheurs peuvent dire aussi.
Et le temps qui ne sera pas passé par ailleurs pour aller faire une expérimentation sur le terrain ou faire un article pour faire avancer sa recherche.
Et dans ce cas, alors, comment convaincre les chercheurs du Sud de partager leurs données ? Les rassurer sur la question de ils ne vont pas se faire piller les données par les chercheurs du Nord. Quelle garantie, en fait, leur donner là-dessus ?
Alors, faire en sorte que le chercheur soit intégré, en tout cas participe à la gestion et la diffusion de sa donnée. Vers quelle communauté on va la diffuser ? Donc qu'il soit partie prenante de ces décisions-là. Les freins au Nord sont identiques à ceux du Sud. Hein. L'ouverture des données est un phénomène naissant, quoi. On ne fera pas de la science ouverte à moindre coût.
Donc ça veut dire qu'il faut que les États du Sud investissent là-dedans ? De même que les États du Nord.
Tout à fait. On sait très bien que former les gens, mettre en place des infrastructures numériques ont un coût et qu'il faut l'assurer si on veut que cette science ouverte prenne de l'ampleur et soit, je dirais, se répandre à travers les différents chercheurs, les différentes disciplines scientifiques.
C'est le meilleur que l'on puisse souhaiter autour de la question comment ouvrir la science au Sud. On continue de s'interroger depuis Dakar et de chercher l'inspiration avec le Coragola des Positive Black Soul, Noumou Kunda, en solo sur RFI.
Yeah.
Question sur RFI.
Autour de la question comment ouvrir les sciences au Sud, suite de votre reportage à Dakar, Charlie Dupiot, au premier colloque international de sciences ouvertes qui a mis en lumière les enjeux essentiels et les multiples défis à relever pour que les recherches soient réellement partagées équitablement sur toute la planète et que les chercheurs du Sud soient valorisés également. Les obstacles, les barrières à cette science ouverte sur le continent sont nombreux, à commencer évidemment par l'accès souvent difficile ou perturbé à Internet, le manque d'infrastructures de base, on le sait, mais aussi le manque de formation pointue sur des sujets très techniques pour les chercheurs et chercheuses du Sud qui en demandent pourtant sans relâche et avec tant d'énergie.
Oui, quelques-uns se battent pour lancer des initiatives de sciences ouvertes au sein de leur laboratoire ou de leur université. C'est le cas de Gora Lo, il est responsable du campus numérique à l'université Hassan Seck de Ziguinchor, en Casamance, au Sénégal. Université qui compte 130 enseignants-chercheurs titulaires.
Ben, l'université Hassan Seck de Ziguinchor, c'est une jeune université qui a à peine 10 ans d'existence. Et actuellement, au niveau de la bibliothèque universitaire, nous avons un projet de création d'une bibliothèque numérique qu'on va mettre maintenant en ligne, à la disposition maintenant de la communauté scientifique, avec un partenaire qui est le GRDR.
Le GRDR, c'est une ONG qui intervient notamment en Casamance.
Oui, c'est une ONG française, c'est un groupe de recherche. L'idée, en fait, c'est qu'au-delà de l'université, nous voulons valoriser la production scientifique au niveau de la Casamance. Parce que vous savez, il y a beaucoup de productions qui ont été faites dans des projets de développement qui sont succédés en Casamance. Et toute cette documentation-là n'est pas valorisée, ça dort dans des tiroirs. Je prends l'exemple, par exemple, sur la salinisation des sols. Vous savez, c'est une problématique majeure en Casamance parce que, bon, en Casamance, depuis un certain temps, en fait, ce qu'on constate, en fait, c'est que la langue salée avance et occupe les terres cultivables. Et donc, ça, c'est une problématique majeure qui se pose parce que vous avez un village qui avait des rizières qui étaient de bon, X hectares, maintenant, se retrouve avec un espace diminué de moitié ou bien voilà, du quart. Et là moi, ça pose un problème maintenant d'accès à la terre cultivable.
On cultive beaucoup de riz en Casamance ?
Oui, la Casamance, c'est une zone rizicole qui joue un rôle important au niveau de l'économie du pays. Mais maintenant, avec cette salinisation, voilà, il y a des difficultés réelles qui se posent. Et il y a beaucoup de chercheurs, hein, de chercheurs même de l'IRD, je pense, hein, de l'Université Hassan Seck, d'autres qui ont travaillé sur ce projet. Maintenant, je pense que toute cette production-là doit être valorisée, doit être connue. Hein. S'ils sont bien diffusés à travers le monde, ça peut permettre à d'autres pays, par exemple en Amérique, peut-être en Amérique latine, ou bien au Cameroun, ou bien même au niveau de la Gambie ou de la Guinée-Bissau voisine, ça permettrait de gagner du temps parce que les gens ne vont pas refaire un peu cette recherche-là. Donc je pense que ça permet un gain de temps hein, et également d'avancer un peu sur la recherche pour aller de l'avant. L'Afrique participe à 2% à la production scientifique mondiale, mais je pense que il y a beaucoup de choses qui sont produites et qui encore dorment dans des tiroirs.
Quelles autres thématiques méritent d'être valorisées en Casamance ?
Il y a les chercheurs de l'université Hassan Seck qui ont travaillé avec des étudiants un peu sur le biogaz, en fait.
Ils produisent du biogaz à titre expérimental ?
Voilà, l'utilisation un peu des déchets, etc., pour en faire de l'énergie, pour la cuisson, etc.
Alors cette plateforme numérique qui recenserait toutes les publications scientifiques, notamment de chercheurs casamançais, n'est pas encore en ligne. Est-ce qu'elle sera ouverte au public ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra la consulter, je ne sais pas, dans un autre pays africain, ou en France, ou aux États-Unis ?
Absolument, nous sommes dans le libre accès, en fait. Donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est vraiment donner de la visibilité. Une université est connue et reconnue de par un peu la production scientifique qui est menée. Il y a des étudiants qui ne connaissent même pas la production de leurs enseignants. Ils ne savent même pas les enseignants, ce qu'ils ont écrit. Ils ne le savent pas.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a des étudiants qui ne savent pas ce qu'ont publié leurs enseignants.
Ah oui, ah oui, oui ça existe. Ça. Parce que tout simplement, ces articles ont été publiés dans des revues qui sont en France, aux États-Unis ou dans d'autres trucs. Et ces revues-là, nous, on n'a pas accès à ça parce que ça coûte cher. Ou bien, si c'est à des abonnements, à des bases de données qui coûtent cher, on ne peut pas avoir ces abonnements-là. Moi, j'ai négocié ferme avec une plateforme, une base de données pour un abonnement d'une année. Et le prix était à 10 000 euros pour nos 3 000 étudiants et enseignants. Donc, c'est vraiment cher pour le budget de la bibliothèque. Et moi, j'ai fait des études un peu à l'Université de Montréal, mais j'étais ébahi de voir le nombre, la liste des plateformes auxquelles les bibliothèques de l'Université de Montréal étaient abonnées. C'était énorme, énorme. Nous, on ne pense pas à ça, qu'en fait. Actuellement, nous n'avons pas d'abonnement en réalité pour des bases de données documentaires.
Hein. Qui sont payantes.
Qui sont payantes et qui coûtent cher, hein. C'est pas donné. Et je pense que l'opportunité de la science ouverte, on doit la saisir. Nous, Africains, devrons tirer le maximum de cette possibilité, à mon avis. Avoir accès à l'information scientifique et technique, c'est fondamental. Et en Afrique, je pense que le numérique, les archives ouvertes, on doit comment saisir cette opportunité-là pour mieux participer à la science mondiale.
Pour favoriser le libre accès et la visibilité au campus numérique de l'université Hassan Seck de Ziguinchor en Casamance, autour de la question comment ouvrir la science au Sud, à tous les Suds en première ligne face aux changements environnementaux qui nous interpellent tous aujourd'hui et sur lesquels les chercheurs et notamment les chercheuses du continent ont de fait, Charlie Dupuis, une longueur d'avance.
Oui, on peut parler de la recherche sur les pesticides et la toxicité des sols et de l'eau. Habiba Sanogo-Tidou est professeure spécialiste en écotoxicologie et en sciences de l'environnement. Elle est également présidente de l'université Jean Lorougnon Guède à Daloa, en Côte d'Ivoire.
J'ai plus mis les pieds dans un laboratoire, j'étais dans la nature. Et c'était pas mal d'ailleurs. Mais là, c'était à Abidjan. J'étais aux sorties des eaux résiduaires industrielles, avec mes bidons en train de relever les eaux polluées. J'étais sur la lagune, en train de pêcher mes organismes, voir à l'intérieur si ils avaient des concentrations de polluants. Je travaillais sur le poisson parce que en Côte d'Ivoire, nous aimons beaucoup le poisson. Et ça fait, bon, c'est une source de protéines assez importante quand même pour la population. On pouvait appréhender la toxicité des polluants au niveau des poissons. C'est de voir aussi quelle concentration d'eau usée qui peut tuer les poissons dans la lagune, par exemple.
Vous testiez les polluants, les eaux usées, sur les poissons directement?
Sur les poissons directement, avec un témoin, bien sûr. En jouant sur le taux de dilution, vous arrivez à voir quelle concentration qui est mortelle. Donc, ma recherche consiste à aller voir, rechercher ces choses-là, pour montrer que le poisson que nous voyons sur le marché, qui semble être bien beau à voir, peut ne pas être sain et peut entraîner la maladie.
Qui sont des substances qu'on retrouve dans quoi habituellement?
Généralement, des substances qu'on retrouve partout, dans les détergents, les insecticides, dans tout ce qu'on utilise à la maison comme en agriculture, avec ces activités qui sont subventionnées par l'État, qui leur donnent des insecticides et des intrants agricoles. Donc parfois, ça rend service à l'homme, mais ça devient très dangereux.
En quoi pour vous c'est important d'ouvrir la discipline dans laquelle vous travaillez et le sujet de recherche sur lequel vous travaillez, qui est donc la toxicité de nombreux produits qu'on retrouve dans l'agriculture et dans l'industrie?
Vous voyez bien que le sujet est tellement passionnant et qui touche tout le monde, notamment ici en Côte d'Ivoire. Ce sont des données qui peuvent être mises à la disposition des paysans qui travaillent dans les champs et qui utilisent des pesticides à des concentrations telles que bon, le tout se retrouve au niveau des plans d'eau, pour dire à telle concentration, voilà ce qui peut se passer au niveau des poissons. Vous pensez que vous êtes loin, par exemple, de la lagune, mais voilà qu'avec le charriage des eaux, des eaux polluées, voilà comment les poissons de la lagune peuvent être touchés. par les produits que vous utilisez. Donc ça sert à la sensibilisation déjà de ces paysans, de sorte qu'ils changent leurs pratiques agricoles. Maintenant, le service à la communauté, c'est quelque chose qui coûte cher. Ça, il ne faut pas se leurrer.
Le service à la communauté, c'est quoi? C'est qu'en gros, les chercheurs peuvent retourner après dans les communautés où ils ont mené des recherches.
Ils travaillent avec les communautés sur les recherches qu'ils ont faites, a posteriori. Et ça, si les universités veulent le faire, il faut encore un peu plus de moyens. Je pense que l'ouverture se fait déjà à ce niveau. Et puis aussi, ça permet aussi au monde scientifique de savoir qu'il existe ce genre de travaux, d'échanger avec des autres sur les données, des concentrations qui peuvent varier d'un milieu à l'autre. Moi, j'en ai fait en Côte d'Ivoire. Quelqu'un d'autre pourra le faire, je ne sais pas, dans un autre pays ou au Sénégal. Il obtiendra d'autres données. Et bon, en mettant tout ça ensemble, on pourra voir la gamme de concentration qui tue les poissons. On pourra communiquer beaucoup plus efficacement là-dessus auprès d'un grand public. Pour nous, nous nous sentons utiles déjà de travailler là-dessus. C'est des débats sur l'agriculture qui constitue un point important pour l'économie ivoirienne et de l'Afrique de manière générale. Sinon, je pense que la science ouverte est une chance. C'est un bien commun, comme on l'a dit, qui devrait être partagé entre tout le monde et tous les chercheurs.
C'était la voix d'Abiba Sanogo-Tidou, chercheuse ivoirienne en sciences de l'environnement. Alors ce colloque Sciences ouvertes au Sud, organisé à Dakar, a permis d'élaborer une charte des bonnes pratiques de mise en réseau des données, avec l'idée par exemple de décrire le contenu de ces données quand on les met en ligne. Il ne suffit pas de les sauvegarder sur un serveur dans un entrepôt numérique, mais aussi de donner à d'autres chercheurs les moyens de les comprendre et puis de les rendre accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique. Autre avancée, c'est la signature par les participants du colloque d'une déclaration pour le partage et l'ouverture des données de la recherche pour le développement durable, pour que cette communauté unie avance ensemble pour un vrai partage au cœur de la science.
Merci infiniment, Charlie Dupuy, pour toutes ces paroles croisées, échangées avec tant de liberté et d'ouverture d'esprit. Merci vraiment à toutes les chercheuses et à tous les chercheurs qui ont donné de la voix et du cœur. Tous les entretiens, Charlie, vous les avez réalisés à Dakar, dans le cadre de ce colloque donc Science ouverte au Sud, organisé par l'IRD, le CIRAD et l'Université Cher Anta Diop. Un grand merci à Christelle Dios sur place pour son aide précieuse. Un grand merci à toutes les équipes de l'IRD. Un grand merci également à Charlotte Hydrac à Dakar pour son reportage autour du prix L'Oréal UNESCO des bourses pour les femmes et la science en Afrique subsaharienne. Reportage croisé, mixé et réalisé par Hugo Violas avec Caroline Fiette en coulisses. De la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, on se retrouve autour du plaisir de la musique, pourquoi ça nous fait tant de bien, par où ça passe et pourquoi la musique enchante nos neurones. À écouter sans modération, les oreilles grandes ouvertes sur RFI. C'est bientôt l'heure du prochain journal. Priorité santé.